Notre Dieu, notre Père, nous voulons te confier ce temps que nous passons ensemble, ta parole que nous voulons ouvrir et ce que nous voulons partager ensemble, que ce matin, cette petite balade dans ta parole soit véritablement un plaisir, un régal et surtout ça soit une véritable nourriture, une véritable interpellation qui nous porte et nous conduit encore plus loin dans notre vie spirituelle, dans notre marche et pourquoi pas dans l'avancement du royaume des dieux. Aide-nous, Seigneur, à accéder à cela et à aller de l'avant avec cela, au nom de Jésus. Amen. Évangile de Luc, chapitre 14, versets 15 à 24, c'est une histoire que nous connaissons. L'un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu !» Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas. Il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire à ses conviés, « Venez, car tout est prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ. » Et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Qui sommes-nous à la lumière de ce texte? Quel est notre rôle sur cette terre en tant que pèlerins? Vous savez, nous ne sommes pas chez nous. En tant que chrétiens, vous devez le savoir. On n'est pas chez nous. On est en route vers le ciel. Notre destination finale, c'est le ciel. C'est là qu'on passera l'éternité. L'éternité n'est incomparable en termes de temps avec le temps que nous passons ici. Qui sommes-nous? Voilà un questionnement que j'aimerais aborder à travers cette parabole. Jésus se trouve dans la maison d'un des chefs des pharisiens qu'il a invité à manger. C'est un jour de sabbat. Comme nous le savons, la relation entre Jésus et les pharisiens était souvent une relation tendue. Les pharisiens surveillaient constamment Jésus pour le prendre à défaut, et l'accuser en quelque sorte. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire finalement en le faisant crucifier. Et Jésus ne leur faisait pas non plus de cadeaux, n'est-ce pas? Et quand il le fallait, il dénonçait leur attitude. Et donc on se demande, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi Jésus se retrouve avec des gens avec lesquels il n'est pas toujours en maille, avec lesquels il ne s'entend pas toujours bien? Qu'est-ce qu'il fait là? Vous savez, Jésus n'est pas venu que pour ceux avec qui il s'entend bien. Il est venu pour tout le monde. Il est venu aussi pour ceux avec lesquels il ne s'entend pas du tout. Ce matin, c'est intéressant à se dire, si vous n'êtes pas quelqu'un qui vous entendez pas bien avec Dieu, qui dit « Oh, fou Dieu !» Non, lui aussi, Jésus veut bien vous rencontrer, faire votre connaissance. Alors, pendant qu'il se trouve là, il y a un homme hydropique qui a une maladie, en fait. Bon, j'essaie de comprendre ce que c'est, donc permettez ma limite de connaissance en sciences médicales. Donc, on aura quand même à manger ensemble après. Donc, aller vers ceux qui ont fait les trucs médicaux, comme Marie-Luce, elle va peut-être mieux expliquer. Mais d'après ce que j'ai compris, un homme hydropique, c'est quelqu'un qui a de l'eau dans son corps et suffisamment trop d'eau que pour que ça bouleverse complètement son système de vie. Ici, on sous-entend dans les commentaires que j'ai lus que c'était même des problèmes peut-être cardiovasculaires. Bon, je ferme vite la parenthèse. Nous retenons simplement que c'est un malade. OK? Et Jésus le guérit. Scandale chez les Juifs. Scandale chez les pharisiens. On ne peut pas guérir un jour de sabbat. Puisqu'un jour de sabbat, on ne travaille pas, on ne peut pas guérir en conséquence. Ils sont donc choqués. Et s'ensuit toute une série de réflexions que Jésus va alors faire. Des questions toutes simples, comme Jésus en avait l'habitude. Est-il permis de faire du bien un jour de sabbat, etc. Et il a commencé à parler, à les exhorter, etc. Vous savez, Jésus a une finesse comme ça, une pédagogie incroyable, parfois de l'ironie même parfois, qui aide quelqu'un à se dire « Ah oui, d'accord, j'ai compris ». S'ensuit dans toute une discussion, tout un tas d'exhortations. Ça, c'est la portée de tout ce qui est avant le verset que nous avons évoqué ici. Et c'est la dernière exhortation de Jésus qui va pousser ce pharisien à s'exclamer comme il s'est exclamé. Jésus, au verset 13, que nous n'avons pas lu, dit « Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux dès qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Et donc, en écoutant cela, un des pharisiens qui était à table, verset 15, dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus voit bien que le gars n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il n'a pas compris ce que Jésus voulait dire. Et donc Jésus va adresser une parabole à tous ces Juifs qui sont là. Cette parabole, il va l'adresser pour les mettre à défi. Vérifier la sincérité de leurs déclarations. Vérifier s'ils comprennent. Les emmener à se rendre compte de ce qui se joue réellement dans ce grand festin à la résurrection. Alors, il y a beaucoup de choses à dire dans cette parabole et je vais prendre plutôt l'orientation de faire une lecture où je vais tourner autour des invités. Cette parabole met en lumière deux sortes d'invités. Il y a les invités principaux, ceux pour lesquels le repas a été fait. Sûrement et certainement, ils avaient été avertis, ils ont été invités suffisamment en temps et heure et on leur a bien demandé s'ils voulaient bien venir. Ils ont sûrement et certainement dit « Oui, nous y serons. On sera à ton repas, mon ami. On y sera. T'inquiète pas, on est là. » Et puis, le brave monsieur a préparé son repas. Il a mis en place tout. Il a couru, il a fait courir ses esclaves. Il a fait travailler. C'est un vrai festin, quoi. C'est vraiment un bon repas. Il se réjouissait lui-même d'avance de pouvoir dire « Waouh, quoi !» Et ils vont manger, ils vont être contents. Je vais être avec mes amis. On va s'amuser, on va se régaler. Mais le jour du repas, voilà-t-il pas que il n'y a personne? Personne. L'un prétend qu'il doit aller voir un champ qu'il a acheté. Vous trouvez ce prétexte-là normal? Peut-on vérifier un champ qu'on a acheté après l'avoir acheté? Moi, un jour, j'ai été l'objet d'une bonne tromperie. Un monsieur m'a fait croire que je pouvais acheter une parcelle, mais une grosse parcelle, pour un prix complètement modique. Et il m'a dit, venez, vous allez voir cette maison, vous allez voir, j'ai tous les papiers. Enfin, cette parcelle, vous allez voir, j'ai tous les papiers. C'était à Floref. J'arrive, et c'est vrai, c'était un territoire, c'était une parcelle immense. J'arrive, mon petit doigt me dit quand même, c'est quand même bizarre. Une parcelle aussi immense, qui coûte aussi peu cher, et surtout, qui plus est, parce que je passe quand même quelques fois par là, n'a jamais été encore vendue depuis tout ce temps. J'ai dit au gars, ok, très bien, je vais réfléchir. J'ai donc été à la commune de Floreff. Je leur ai demandé, monsieur, tel lotissement à tel endroit, qu'est-ce que vous savez de ça? Ah, monsieur, ça appartient à la société des eaux. C'est interdit d'y construire. Le gars, il voulait me siffler mon argent et disparaître dans la nature. Donc, on va toujours vérifier avant, pas après. Donc, mensonge. Même chose pour celui qui a ses 5 paires de bœufs et qui dit qu'il va aller les essayer. On essaie quand même pas ça après avoir acheté, hein. Même le vendeur va vous dire, écoutez, vous avez acheté, je suis désolé, hein. Et le troisième, c'est un curieux prétexte quand même, hein. Je viens de me marier. Et puisque je suis marié, je viens pas. Oui, c'est vrai qu'en Israël, il était prévu que quand on est marié, on est dispensé de service militaire pour pouvoir réjouir le cœur de sa femme. C'est ce qui est écrit, hein, c'est pas moi qui le dis. Mais ici, le gars, il n'est pas en train d'aller, on l'invite pas, c'est pas une, comment on appelle ça, une circoncision, quand on appelle les gens pour aller faire la guerre, là. C'est pas ça, on l'appelle pas pour aller faire la guerre. Comment? Non, pas circoncision. Ça a un nom avec cir, mais je sais plus quoi. Bon. Ouais, j'ai oublié. Peut-être aussi que ça, c'est un vieux mot aussi, hein. C'est pas conscription. C'est conscription, hein. Ouais, excuse-moi, c'est pas circonscription. C'est conscription, voilà. Mais il s'agit pas du tout de cela. Il s'agit tout bêtement de venir manger. À la rigueur, il veut même venir avec sa femme. Non, ces trois personnes n'ont pas voulu donner la réponse. Et pourtant, ils avaient été invités. Et pourtant, tout a été préparé pour eux. Que pensez-vous de cette attitude? Ils refusent quelque chose qu'on leur offre gratuitement. Et vous savez, pour celui qui s'est donné le mal de le faire, ça va loin. Ça va loin parce qu'on sent que, à travers ce refus de venir, c'est le rejet de la personne. Le maître se sent rejeté. Et je vais même plus loin. Ça montre un manque total de l'amour pour lui, de considération pour lui. Il s'est donné tout ce mal. Et l'on en vient tout simplement à dire non. J'ai une élève qui un jour me dit qu'il a dit à son prof de géographie, monsieur, votre cours, il est nul et vous, je ne vous aime pas. Élève de cours de religion protestante en première, secondaire. Et c'est moi le prof de religion protestante. J'entends ça. Je dis quoi? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit à mon prof, son cours, il est nul et en plus de ça, je l'aime pas. J'ai dit, écoute, on va mettre la Bible à côté. On va juste essayer de réfléchir avec le bon sens. Quelqu'un te prépare un bon repas et il t'invite à venir manger. Tu dis, oh non, je ne mange pas ça, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Quelle est la chose que tu mets dans son cœur? Quel est le sentiment que cette personne doit ressentir? Il doit ressentir de la colère, il doit ressentir de la tristesse. Je dis, ton prof, il prépare son cours, hein? C'est un professionnel, hein? Il prépare son cours et il le prépare en l'adaptant à ton niveau, hein? Pour que tu aimes ce cours-là et que tu puisses le suivre. Et toi, tu dis, ce cours, il est nul. Tu n'as même pas un diplôme de fin de secondaire. Lui, il a un diplôme, en plus que je connaissais le gars, donc il a un doctorat de l'ULB, et toi, tu viens dire que il est nul, son cours. Alors, la gamine, heureusement, c'est une fille très raisonnable, heureusement, si ses parents avaient déjà été déjà passés avant moi pour lui dire que ce n'était pas du tout bien ce qu'elle faisait, et donc, elle a reconnu qu'elle a mal agi et elle est allée s'excuser auprès du professeur. Ça fait mal. Ça fait mal quand on rejette notre générosité, notre amitié. Et ces gens montrent aussi que leur priorité est ailleurs. Et c'est là le questionnement de Jésus. Le questionnement de Jésus face aux pharisiens est le suivant. Accepteriez-vous l'invitation? Accepteriez-vous le salut? Et Parenthèse, pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jésus sait très bien que pour les pharisiens, le salut doit coûter. Il doit coûter. Il doit coûter le prix de l'observance stricte de la loi. Le salut, c'est faire l'ensemble de tout ce que je dois faire. Je dois le faire d'une manière stricte. Et c'est comme ça que je vais aller au ciel. Le salut coûte. Et donc, les voilà qui passent à côté parce qu'ils ne comprennent pas la grâce. Elle est trop facile pour eux. Elle est trop bête, la grâce. Mais, comme vous avez remarqué, la facture, elle est salée. Parce que ils n'auront plus accès à la même faveur. Ils ne seront plus invités. Le maître dit cela, je ne les reverrai plus jamais. Je ne veux plus jamais les revoir. Alors, que fait le maître par rapport aux excuses? Comment réagit-il par la suite? Le maître va dire à son esclave, va chercher d'autres personnes. Va chercher des pauvres dans la rue, des pauvres, des estropiés, des aveugles, des boiteux. Va chercher tout ce monde-là, emmène-les chez moi. Et l'esclave s'exécute, mais il y a encore de la place. Et le voilà qui l'envoie encore. Va chercher sur le chemin et le long de haies ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Je vais juste préciser une chose. Vous voyez le mot qui est là, contraint-les. Contraint-les. Force-les, oblige-les. C'est un mot qui a fait l'objet d'une interprétation qui a fondé les moyens du salut par la force que l'on a utilisé dans le passé. Notamment, saint Augustin avait interprété que ça donnait le droit à ce qu'on oblige les gens à se convertir. On oblige les gens. C'est comme ça que la mission en Amérique latine a fait énormément de morts parce que c'était « tu te convertis, on te tue ». Et quand le gars disait « je ne veux pas me convertir », boum, à côté, l'autre vient « tu te convertis, on te tue ». Eh bien, quand tu as vu la mort, là, tu dis « ok chef, moi je me convertis ». Et ça a aussi donné de la valeur et du poids à tous ces mouvements dont nous regrettons beaucoup dans notre histoire de la chrétienté. Les inquisitions, les croisades, toutes ces choses ont eu droit, ont eu un prétexte. Mais le texte ne veut pas dire contraint-les dans le sens de les obliger, d'exercer une force extérieure pour les obliger. C'est pas ça que ça veut dire. Le texte veut dire insiste beaucoup pour qu'ils viennent. Pourquoi? Imaginez un instant. Vous avez un handicapé qui a toujours été rejeté dans la société, qui sait qu'on ne l'aime pas, il est sale, il est tout ce qu'on voulait. Imaginez que je sois le serviteur d'un roi et que je viens de lui dire, dis mon gars, le roi t'appelle pour venir manger chez lui. Qu'est-ce qu'il va penser lui dans un premier temps? Il va dire, on se fout de moi. Il y a un stud quelque part, est-ce qu'il y a des caméras quelque part, caméras cachées? Il va se dire, il y a quelque chose qui se fait, c'est pas vrai. Et puis quand on va insister, il va dire quoi? Quoi, moi? Mais non. Peut-être qu'on cherche que j'aille là-bas pour m'arrêter ou pour me tuer. Vous voyez, c'est normal. Il va refuser. Il va refuser parce qu'il va se dire, c'est pas ma place, c'est pas mon monde, c'est pas chez moi. J'ai pas droit à ça. J'ai pas droit à ça. Et donc, l'esclave a la tâche d'insister, de dire non, viens. Et c'est ça qu'on veut dire par la contrainte. Les chrétiens, nous gardons toujours cette capacité à évangéliser, à emmener les gens pacifiquement, sans leur forcer la main, juste en les exhortant et en insistant, mais d'une manière pacifique. Voilà le deuxième groupe d'invités. Premier groupe, les pharisiens, enfin, les riches, ceux qui ont l'argent pour acheter des bœufs et des terrains, et qui ont les moyens de se marier, etc. Et puis, il y a ceux qui sont estropiés, ça c'est la deuxième catégorie d'invités. Deux groupes d'invités. Par opposition aux principaux invités, eux ils sont pauvres, ils sont démunis, ils sont estropiés, etc. Ce sont des gens qui sont dans le besoin. Ce sont des exclus de la société. Ce sont des gens sur les routes, des gens laissés pour compte, des gens qui sont dans le jardin, dans les haies. Les invités principaux semblent être des gens à l'aise dans la vie. Ils ont tout. Ils ont les moyens. Ils ont, et il ne leur manque de rien. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin d'aide. Les deuxièmes catégories, ce sont des gens qui se sentent tellement en dehors qu'ils ont même peur de pouvoir participer à ce bénéfice. Ils se sont mis dans leur tête que moi, ce n'est pas pour moi. C'est pour les autres. Ce n'est pas pour moi. Attention, je ne suis pas en train de parler de la richesse matérielle proprement dite. Je suis en train de parler de la richesse en termes spirituels. Un peu comme le jeune homme riche qui disait à Jésus, mais je fais ça, mais que me manque-t-il encore? Vous voyez? Je pense à cette dimension plutôt dans le spirituel. Ce texte peut être interprété de deux manières. Je vous propose deux lectures de ça. Première lecture sur laquelle je ne reviendrai pas, c'est tout simplement, on peut voir dans ce texte le plan du salut de Dieu, tel qu'annoncé d'abord par les prophètes au peuple d'Israël, invitation que les Juifs ont rejetée, okay, et puis ensuite, une deuxième fois, l'invitation a été lancée aux nations à travers l'Église. On peut voir ça. On peut voir ça. Mais une deuxième lecture que je propose, c'est que on peut voir dans ce texte deux sortes d'invités et donc deux manières d'être. Qui sommes-nous? Quel est le but pour lequel nous sommes là? Deux sortes de manières d'être. Les premiers invités seraient tous ceux qui n'ont pas besoin de la grâce de Dieu, tous ceux qui la rejettent parce que d'autres choses sont plus importantes, le travail, la vie, le matériel, voilà, les réalités de tous les jours, c'est plus important. Mon match de foot, mon compte en banque, ma femme, ma maison, etc. Ce matin, ce texte nous appelle, nous interpelle, comme il aurait dû normalement interpeller aussi les pharisiens à ce moment-là. Où en sommes-nous avec cette question? Où en sommes-nous avec l'invitation de Dieu? Est-ce que y a-t-il des choses qui nous empêchent de répondre oui à l'invitation? D'après ce texte, l'occasion ne se répétera pas. Donc, c'est maintenant, aujourd'hui, qu'il faut répondre à l'invitation. Les seconds invités sont ceux qui se savent malheureux, qui s'excluent d'eux-mêmes, qui se savent pas, qui savent qu'ils n'ont pas accès, ils sont étrangers à la maison du maître. Ils vivent une condition misérable, ils ont besoin de la grâce. Et c'est nous, en quelque sorte, nous qui avons saisi la grâce de Dieu. Dans la mesure où nous avons dit oui à Jésus, c'est nous, ces estropiés, ces pauvres, ces aveugles, ces boiteux, c'est nous. C'est nous, c'est ce que nous sommes. Il ne faut pas l'oublier. Pourquoi ne faut-il pas l'oublier? Parce que ça nous rappelle d'où nous venons. Ça nous rappelle la grâce de Dieu. Ça nous rappelle qu'on n'a pas mérité là où nous sommes. Nous n'avons pas mérité notre position actuelle en Christ. Nous n'avons pas mérité cela. Ce que nous méritions, nous, c'était l'enfer, la condamnation. Dehors! Mais Dieu nous a fait grâce. Et c'est merveilleux, parce qu'on voit là le visage d'un Dieu extraordinaire, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui vient accueillir dans sa maison des gens qui n'en valent pas la peine, des gens qui ne méritent pas d'être là. Et il remplit sa maison. Et il dit, ne vous fatiguez pas à les chercher, allez les chercher, j'en veux plein dans ma maison. Ne pas se fatiguer, allez les chercher encore, allez les chercher. Il fait de nous sa famille. Nous l'avons lu dans le texte de Colossiens, nous étions étrangers aux alliances, mais Dieu a fait de nous des membres de sa famille. Il a brisé le mur d'inimitié et maintenant nous sommes ensemble. Nous constituons la famille de Dieu. Nous sommes ses rachetés. Et pourquoi faut-il se rappeler de cela? C'est pour que nous puissions marcher humblement après notre Dieu. Sans orgueil, sans se dire que nous avons des acquis. Non, ce que nous sommes, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Et en nous mettant dans cette posture-là, nous ne pouvons qu'être reconnaissants à l'égard de Dieu, à l'égard de ce qu'il a fait avec nous. Tu vois, Eric, ça colle bien, hein, avec ce qu'il a fait avec toi. Nous sommes reconnaissants. Notre maître est un Dieu de miséricorde. Il a pitié des malheureux. Souvenez-vous déjà, au verset 13, il disait déjà aux pharisiens, quand tu fais un festin, invite les estropiés, etc., etc. C'était déjà bien avant. Il lui disait, pourquoi? Parce que c'est ça qu'il faut faire. Parce que c'est ça qui correspond avec la pensée de Dieu. C'est ça qui touche le cœur de Dieu et qui suscite sa récompense. Alors ce matin, qui sommes-nous? Nous sommes ces chrétiens qui avons trouvé grâce. Ces gens dans le besoin. Et quelle est notre fonction? Quel est notre rôle sur cette terre en tant que pèlerins? Notre rôle est de répondre à la demande du maître, comme cet esclave, d'aller par les villes, dans les rues, dans les places de la ville, et même en dehors de la ville, chercher les perdus. Ça, c'est notre rôle. Exactement comme celui que l'esclave a dû faire. Dieu a eu pitié de nous. N'aurions-nous pas aussi pitié de ceux qui sont perdus dans ce monde? Ne les chercherions-nous pas aussi comme nous avons été cherchés? Imaginez que cet estropié, ce pauvre, était toi, était moi. Quelqu'un a dû insister pour que nous venions à Christ. Ne ferions-nous pas la même chose aussi pour les autres qui sont encore dans la nuit, dans les ténèbres? N'est-ce pas aussi là notre tâche, notre rôle, en tant que pèlerins sur cette terre? Voilà. Je voulais juste, ce matin, que nous ayons cela devant nos yeux, en tant que chrétiens, que nous puissions être humbles devant la grandeur de Dieu, devant l'œuvre de Dieu, et que nous puissions répondre favorablement à cette œuvre en nous engageant aussi à avoir aussi de la peine pour les gens perdus. Nous passons souvent beaucoup à côté des gens et nous n'osons pas leur parler de Dieu. Moi, je m'étais donné comme tâche de pouvoir commencer à parler à ma famille et j'étais surpris. J'ai pris ma petite sœur qui n'était pas convertie. Je lui ai parlé de Jésus. J'étais étonné. Elle a dit, c'était ça que j'avais besoin depuis longtemps. Si je devais supposer chaque fois, ma sœur, elle est journaliste, c'est une intellectuelle, c'est quelqu'un qui a déjà sa vie, il ne faut pas que je la dérange. Elle m'a raconté des choses sur sa malheureuse vie. J'ai dit, waouh, merci Seigneur de m'avoir donné la grâce de lui parler. Nous avons cette tâche vraiment à faire. Ce n'est pas facile, hein, mais c'est notre tâche. C'est là la raison pour laquelle nous sommes là. C'est pour que d'autres que nous entendent parler de Jésus et se tournent vers Jésus. Que le Dieu, que le Seigneur de grâce et de miséricorde nous ouvre les yeux, que nous puissions avoir les yeux ouverts sur la misère des âmes perdues sans Christ et que nous puissions persévérer à les gagner. Dans ce texte, on dit bien, contrains-les, insiste, il ne faut pas s'arrêter. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cette petite balade dans ta parole, merci pour ces paraboles qui sont tellement riches de sens et tellement parlantes pour chacun de nous. Merci surtout de nous rappeler que tu nous as sauvés à un grand prix, que ce que nous sommes, nous ne le méritons pas, mais c'est par ta grâce. Merci de nous rappeler aussi ce matin que nous avons à communiquer cette grâce-là à ceux qui ne te connaissent pas. C'est une tâche qui n'est pas facile, mais tu peux nous aider, Seigneur. Viens en notre aide. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.